Alors, nous avons alors abordé le respect de la vie, fondement de la société occidentale, thème de cette émission. Et je vais commencer par m'adresser à Jean-Claude Martinez, parce que il vient d'écrire cet ouvrage « Euthanasie, stade suprême du capitalisme ». Nous allons aborder des sujets très sensibles à l'occasion de cette émission, très sensibles, qui touchent à la loi naturelle, qui touchent, le cas échéant, aux convictions religieuses, qui touchent au principe même fondateur de la société occidentale. Et là, c'est pour cela que je m'adresse en tout premier lieu à Jean-Claude Martinez, puisqu'il est avant tout professeur de droit, professeur agrégé de droit. Je voudrais, Jean-Claude, peut-être que vous évoquiez sous l'aspect du droit, sous l'aspect du juridique, la spécificité de l'Occident.
Oui, Michel, merci Michel Rosselon d'abord de m'inviter et puis de me permettre de retrouver, au-delà des manifs, en marchant dans la rue, de retrouver Myriam et de retrouver mon ami allemand. Je dis, avec votre permission Michel, à l'instant où nous parlons, le compte à rebours a commencé jeudi, ce jeudi 6 février, le Conseil d'État saisit un appel d'une décision du tribunal administratif de Champagne sur l'affaire de Vincent Lambert, et ça c'est un signe de Dieu, puisque Vincent Lambert vient après Vincent Humbert, finalement. Le Vincent Lambert, donc, est un jeune père, sa petite fille, c'est Clémence, est née un mois et demi après son accident, donc a connu son père toujours dans l'état provisoire où est son père. Vincent Lambert, comme vous, comme moi, respire tout seul, n'a pas besoin de monitoring cardiaque, n'a pas besoin d'assistance respiratoire, n'a pas besoin de médicaments, il a besoin d'être alimenté, il est aujourd'hui handicapé, bon. Mais il entend, il y voit, il sourit, il pleure quand il sent ce qui se trame autour de lui, donc il n'est pas en état de conscience minimale, il est dans un état très supérieur à celui de Schumacher, très, très supérieur à celui de Schumacher. Alors, pour monsieur Schumacher, à l'hôpital au CHU de Grenoble, il y a des banderoles, longue vie à Schumacher, il y a des comités de soutien pour Schumacher, et aucun des neurologues de Grenoble ne propose d'arrêter l'alimentation et d'arrêter les traitements et d'arrêter l'hydratation de Schumacher pour que Schumacher meure. Eh bien, Vincent Lambert, qui est X fois dans un état X, qui est normal, il est handicapé. Est handicapé provisoire, hein, parce que la régénération neuronale, les obscurantistes que nous sommes, savent que la régénération neuronale est en cours, que ça a déjà été fait in vitro, que la régénération microvasculaire est en cours. Moi, j'avais proposé qu'au niveau du Parlement européen, de la Commission européenne, on lance un programme Lazare. Un programme Lazare marche. Un programme Lazare, finalement, et qu'on investisse sur cette recherche scientifique, qu'on pousse. Bon, mais tout ça est dans les revues Nature, dans les revues Science. Ce garçon, comme les tétraplégiques, comme tous les papillons qui sont enfermés dans des scaphandres, ce garçon, Vincent Lambert, qui n'a que 37 ans, 38 ans, bon, mais qui a la vie devant lui, ce garçon remarchera à terme. Il remarchera. Parce que la régénération neuronale se fera et on arrivera à rétablir les connexions de moelle épinière, etc. Bon, et voilà ce garçon qui a été à 3 reprises privé de nourriture pour essayer de le tuer. Une fois 30 jours sans manger, et son cerveau l'a maintenu en vie jusqu'à ce que Jérôme Triomphe, cet avocat extraordinaire, ce
remarquable,
jeune avocat, remarquable ce garçon, le juste entre les justes, que Jérôme Triomphe obtienne à 3 reprises d'un magistrat qu'on le réalimente. Il ne s'agit pas de le rebrancher pour qu'il respire, ses poumons fonctionnent, son cœur fonctionne. Bon, il a obtenu. Et chaque fois qu'on le rebranche, qu'on le réhydrate, ben, comme une fleur, ben, Vincent Lambert, ben, revient à lui, puisque son cerveau le maintient en état d'hibernation quand on le prive de nourriture, finalement. Bon. Et Vincent Lambert sourit, essuie du regard. Là, de façon invraisemblable, un hôpital, un CHU, fait un recours devant Bernard Sirn, le président de la section du contentieux, un hôpital fait un recours soutenu par sa hiérarchie, par Madame Touraine, pour demander qu'on cesse l'alimentation et l'hydratation d'un malade. Mais tout ça est invraisemblable, il n'y a même pas de mots. Des malades comme Vincent Lambert, il y en a à Nancy, il y en a à Strasbourg, puisque le professeur Ducrot est venu témoigner et a sauvé Vincent Lambert, son témoignage un peu lourd, en disant « Mais moi, dans mon service, des Vincent Lambert, jamais !» Voilà, des Vincent Lambert, ils sont consolidés, jamais. Bon. Et à Strasbourg, à Nancy, on ne les tue pas. Bon, eh bien là, un médecin, dans le cas des d'autant conseiller général, donc un élu, conseiller général, accessoirement médecin, élu du Parti chrétien-démocrate, d'une partie chrétien-démocrate. Bon, tout ça, ça est assez... Moi, je croyais que le cœur nucléaire de la chrétienté, c'était l'espérance. L'espérance, même pas l'espérance que la régénération de Rolalf interviendrait et puis que quelque chose d'autre interviendrait. Bien, ce médecin a considéré que la qualité de vie de Vincent Lambert n'était pas suffisante. La qualité de vie, je ne sais pas comment on apprécie, qui est juge. Il y avait les juges des élégances, maintenant il y a des médecins qui sont spécialisés en qualité de vie. Bon, alors ce médecin, plus l'épouse de Vincent Lambert, plus un neveu a fait un recours aussi. Tout cela, on ne sait pas si le neveu appartient à l'association de l'ineffable M. Romero. Mourir dans la dignité, il ferait mieux de s'occuper d'ailleurs de vivre dans la dignité plutôt que de mourir dans la dignité. Enfin bref, voilà. Ce jeudi, le vice-président de la section du contentieux du Conseil d'État va être saisi d'un appel impossible. Il va devoir dire oui, la décision, enfin le référé, la décision du tribunal administratif de Champagne je ne sais plus, était normal, était conforme, était légal, et donc Vincent doit continuer à être alimenté, et Vincent vivra, définitivement il vivra. Il attendra, il coûtera peut-être cher à la société, mais enfin, ouais, il vivra. Et puis ce Vincent n'est pas en danger. Hein. Je rappelle qu'un grand patron de neurologie de Marseille, lorsque Ariel Sharon a fait un accident vasculaire que l'on sait, ce grand patron de neurologie avait dit oui, il en a pour quelques semaines. Ces quelques semaines ont duré 8 ans. On dirait 8 ans et il est mort de sa mort naturelle sur lui. Ou alors Bernard Stirn, sur lequel pèse maintenant une responsabilité. Il est le dernier verrou avant le déferlement de la barbarie. Ou Bernard Stirn va dire, ben oui, les formes n'ont pas été respectées, la légalité n'a pas été respectée, et Bernard Stirn annule l'ordonnance du tribunal administratif de première instance, et dans ce cas-là, le lendemain, c'est-à-dire ce vendredi, l'équipe, je n'ose pas dire médical, parce qu'ils sont un peu spéciaux, quoi. L'équipe du CHU de Reims enlèvera l'alimentation, enlèvera l'hydratation, et Bernard et Vincent Lambert partira dans le désert d'Atacama. Il traversera le désert d'Atacama sans eau, sans nourriture. Alors tiendra-t-il 30 jours? La dernière fois, il a tenu 30 jours. Mais je le raconte comme ça, mais c'est un cauchemar, cette histoire-là. C'est un cauchemar. Non. Où ce garçon va continuer à vivre et attendre que le génie des hommes et attendre que les obscurantistes, finalement, fassent des progrès tels qu'on aura la régénération neuronale. Et ce garçon, à 50 ans ou avant, remarchera, sa petite fille rejouera avec lui, mais en tout cas, sa petite fille jusqu'au mois de mars venait le voir, et bon, ben voilà, et un jour on peut imaginer qu'elle amènera son petit chien, et que le petit chien aboiera, et le petit chien jouera, et de la vie s'installera, finalement, parce que ce garçon est en vie. Voilà, au moment où nous parlons, nous sommes à un rendez-vous terrifiant, programmé. Il y avait, Gabriel Marquez avait écrit un livre sur l'histoire programmée de quelque chose qui va se produire, on doit tuer quelqu'un dans un village, et bien c'est du Gabriel Marquez qui est en train de se passer au CHU de Reims. Moi, j'aurais aimé que dans la manif de hier, il y ait un petit mot pour Vincent Lambert et que tous les esprits, comme disait le président Mitterrand, que toutes les forces des esprits, finalement, se concentrent comme des forces laser et pensent, je n'ose pas dire prix.
J'ai vu des pancartes, effectivement, sur l'internet.
Moi, j'aurais rêvé qu'on fasse même la marche pour tous devant le CHU de Reims. Voilà, un petit peu. Mais à l'instant où nous parlons, Michel, vous voyez, on écrit un livre, L'euthanasie, stade suprême du capitalisme, parce qu'une journée d'hospitalisation en soins intensifs coûte 5000 euros. Bon, alors évidemment, plus on élimine de Vincent Lambert, et plus évidemment, j'ai fait le business plan de l'euthanasie, et on arrive, si on retrouve les chiffres magiques des 220 000 IVV, interruption volontaire de vieillesse, comme il y a les 220 000 IVG, eh bien, on est à 12 milliards, on a bouché le trou de la sécurité sociale en précipitant les personnes âgées, les Vincent Lambert, les handicapés, tout ce qui déplaise, les gens qui sont à la manif pour tous, les matraqués par Valls, etc. etc.
Tout le titre très provocateur, effectivement, de votre ouvrage, Euthanasie, stade suprême du capitalisme, ouvrage paru aux éditions Via Romana. Et alors je m'adresse maintenant justement au professeur de droit que vous êtes, et à l'éminent professeur de droit qui a enseigné à des générations de jeunes enthousiastes de vos cours, je le dis, parce que mes propres enfants ont été vos élèves.
Ah bon. La petite Chirac aussi.
Voilà. Mais cette affaire, c'est ce que vous évoquez, ce que va évoquer tout à l'heure Winfried Wermeling pour en ce qui concerne les avortements. C'est une rupture par rapport aux principes fondateurs de la société occidentale. Alors j'aimerais que le professeur de droit que vous êtes souligne que... parce que le paradoxe, c'est que les adversaires, et vous avez employé le mot tout à l'heure, les adversaires qui ont tous les moyens de communication en main qualifient les défenseurs de la vie d'obscurantistes. Or, paradoxalement, nous retombons dans des âges antérieurs au droit romain. J'aimerais que vous évoquiez cet aspect.
Mais regardez, il y a une charte européenne des droits de l'homme. Cette charte européenne des droits de l'homme est extraordinaire. Elle commence par un article premier sur la dignité. Bon, mais le premier de tous les articles premiers de la création, c'est le droit à la vie. C'est pas le droit. Il faut d'abord être vivant pour bénéficier de la dignité. Et on a parlé, mis à part dans la déclaration de Virginie du XVIIIe siècle aux États-Unis et dans la déclaration américaine, finalement, il n'y a jamais référence à la vie. On a peur de prononcer le mot vie. Déjà, dans la Constitution européenne, on a eu peur de mettre le mot Dieu. Mais là, on a peur de mettre le mot vie. Alors, on tourne autour du pot, mais dignité... Non, le premier de tous les droits, la condition essentielle, le droit, si j'ose dire, le droit duquel, matriciel, duquel découle tout, évidemment, c'est évidemment la vie. Moi-même, j'avais proposé de faire de la vie le nouveau paradigme politique, à côté du socialisme, du libéralisme, de l'européisme, de tout ce que l'on voudra. Moi, je crois que la téléologie du politique et la théologie du droit, la finalité, le soubassement, la nafréatrice fossile de tout système juridique romain, Michel, comme vous disiez, c'est forcément la vie. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des droits de l'homme sur la Lune ou qu'il y ait des droits de l'homme sur Mars. Dès qu'il y aura un homme, peut-être sous les pieds de Armstrong, il y avait des droits de l'homme potentiels parce que Armstrong était là. Il faut que ça commence par le commencement d'avis, il faut que ça commence par la vie. Après, tout un système juridique peut se dérouler, la dignité, le droit de mourir dans la dignité, je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans, le droit surtout de vivre dans la dignité, mais au point de départ, et en finalité, au point de départ et au point d'arrivée, il y a forcément la vie.
Alors je vais vous rappeler, mon cher collègue de l'Assemblée nationale, puisque nous étions parlementaires ensemble, avec le mari d'ailleurs de Myriam ici présente, une séance où je m'étais vu rejeter un amendement de défense de la vie. Et je voulais reprendre la parole parce que les propos tenus par la ministre de l'époque, vous voyez de qui il s'agit, de Mme Barzac, étaient particulièrement scandaleux et je voulais reprendre la parole. Or, vous savez que pour reprendre la parole en séance, il faut exciper d'un article du Code civil ou du règlement de l'Assemblée nationale. Et j'ai donc levé mon petit livre, la Constitution, en disant « Article 2 de la Constitution ». Et le président de séance, qui était Charles Millon, je m'en souviens encore, me dit « Sur quel fondement, mon cher collègue ?» Et à ce moment-là, j'essayais de trouver un argument. Et je dis « Sur le fondement de l'article 2 qui définit les citoyens et qui ne dit pas qu'il faille être nécessairement né pour être un citoyen. » Et le président de séance me dit « Vous avez la parole, mon cher collègue. » Et effectivement, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant.
C'est le mari de Chantal Delsol.
C'est le mari de Chantal Delsol. Effectivement, en droit romain, infans conceptus, l'enfant conçu a les mêmes droits que l'enfant né dès lors qu'il s'agit de son intérêt. Voilà. Et il n'a jamais été défini la notion de vie ou de non-vie ou de le citoyen n'est pas plus défini que la notion de détresse qu'on a voulu retirer cependant. D'une façon extrêmement choquante, et nous allons certainement parler avec Winfried Wermeling tout à l'heure et avec Myriam Beckroth, alors que cette notion de détresse, qui était l'article 1 de la loi Veil, soulignait que l'avortement ne pouvait être admis dans le cadre de la loi Veil, je ne me prononce pas sur mon jugement de valeur, que dans un cas d'exception. Or, on a même supprimé aujourd'hui, ce qui soulevait déjà des débats extrêmement justifiés et enflammés, mais on a même supprimé cette notion d'exception, c'est-à-dire que l'avortement est devenu officiellement une contraception a posteriori.
Et dont on a revalorisé, pour le rendre attractif, entre guillemets, mot de Madame Touraine, on a revalorisé le remboursement à 430 euros. Donc, c'est pour qu'il soit attractif pour les chirurgiens.
Jean-Claude Martinez, merci d'avoir commencé cette émission par un sujet tout à fait d'actualité dont nous allons certainement Pour reparler, au vu des messages que nous allons recevoir des auditeurs, ils seront nombreux à nous parler, je crois, de ce sujet de l'euthanasie active. Je me tourne vers Winfried Wermeling, qui lui mène avec l'association UNEC SOS Maman une action de sauvetage d'enfants à naître, aux côtés du docteur Dor, aux côtés d'ailleurs d'autres associations que j'estime tout autant, comme Laissez-les vivre, comme SOS Tout Petit. Winfried Wermeling, pouvez-vous nous parler un petit peu de vos activités de sauvetage d'enfants et je dirais d'écoute de ces jeunes mamans qu'on veut priver d'être maman.
Oui, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur l'ami Martinez, l'espérance chrétienne, elle est complètement déviée. Bon, si elle est déviée, ça veut dire qu'il y a encore de la substance. Il y a de la substance chrétienne dans ce pays, vraiment. La preuve, il y en a plein de déviations. Mais les déviations vont à tel point qu'on s'occupe que de la femme et jamais plus du bébé lui-même. Ce que vous appelez la vie. On s'occupe de la dignité, mais une dignité sans vie, c'est quoi? C'est un esprit volant? C'est une dignité d'un cadavre? C'est quoi? Donc nous, chez SOS Maman, on s'est un peu rendu compte que peut-être tourne parfois un peu en rond. Bon, j'ai rien contre les manifestations, je participe même. Mais parfois, on pourrait être enclin d'oublier l'essentiel, c'est-à-dire la charité chrétienne à la base, dans le peuple, vécue du jour au jour, entre les toutes petites personnes, entre les vieux, entre les bébés, avec les bébés et surtout en face des femmes. On jette les ponts, on jette... comment on appelle ça? Non. On jette la faute souvent aux femmes. Elles avortent. Il ne faut pas avorter, c'est un péché. Mais la chose est, pour moi, en 80% des cas, totalement à l'inverse. C'est la femme elle-même qui sait mieux que nous, les sauveteurs, que la vie est valide, que la vie est le plus grand bien à chercher dans ce monde.
Une femme n'avorte de gaieté de cœur.
Voilà. Et puis quand on lui donne la main, je t'aiderai, mais dans la seconde. Au début, on pensait notre adversaire, en guillemets, ça serait la femme, faut la convaincre, c'est quelque chose de mauvais, quand même, votre bébé, etc. On a pris un an pour nous préparer, tellement on était effrayés, comment on va convaincre la femme concernée. Et aujourd'hui, c'est vraiment le contraire. La femme, c'est la femme qui veut avorter, elle est notre première... associée dans cette démarche de sauvetage, la première, mais de connivence même, mais du premier abord. Alors, par exemple, je prends une jeune fille de 15 ans, lycéenne, on l'aborde, on dit qu'est-ce qui se passe, elle pleure sur le bord de la rue, c'est tout simple de les trouver, si l'on ouvre un peu les yeux, ou sur les bancs des parcs, je le dis souvent, et c'est très vrai, eh bien, on s'assoit à côté, on met la main sur le bras, on dit « je t'aiderai », c'est tout ce qu'on dit. Comment vous savez? Mais écoutez, vous pleurez, non? Allez, on va au café, on va s'expliquer. Et ça commence comme ça. Il n'y a aucune conversion à faire. Elle dit, j'ai été chassée, ma femme, ma maman m'a chassée. Je suis dans la rue parce que j'ai couché avec un noir. Enfin, n'importe, une histoire comme ça. Et elle veut même pas avorter, elle veut pas garder l'enfant. Elle est complètement désespérée. C'est ça la situation. Où nous, on rentre dans le jeu. Mm-hmm. Très en amont, vous voyez. On ne va pas à l'avortoir déconseiller les femmes de rentrer. On va directement à la source, là où la décision se prend. Et on tend notre main de secours. Et je vous dis, sur les 908 sauvetages qu'on a fait jusqu'à présent, et on connaît chaque prénom de bébé sauvé, eh bien, j'en connais 4 ou 5 avortements seulement. Et c'était des cas vraiment désespérés. Nous, on pouvait pas aider à fond. On n'avait pas assez de finances aussi pour les payer l'hôtel. Enfin, c'était très compliqué. Et finalement, les parents l'ont trouvé, par exemple, cette fille-là, à laquelle je pense, dans le parc encore, mais morte. Et ils nous ont téléphoné parce qu'ils ont trouvé notre carte visite dans son sac. Ah, vous la connaissiez peut-être, on vous fait part, malheureusement, elle est décédée. Et j'ai dit, vous savez, monsieur, pourquoi elle est décédée? Ah non, vous savez qu'elle était enceinte? Ah non, Vous savez qu'elle avait une trouille de mort devant vous. Qu'elle nous a dit, mon père me tuera si je lui dis ça. Alors le type était complètement consterné d'entendre ça. Vous voyez, on parle toujours avortement, avortement, mais il faut voir, c'est plutôt un sauvetage de la femme. Oui. Et pour ça, on appelle notre œuvre SOS Maman. Même si on sauve les bébés, souvent, c'est la maman elle-même qui est à sauver, ou qui est sauvée par le fait même de sauver son propre enfant. Nous, on dit souvent, c'est le bébé qui sauve sa mère, de sortir de la drogue, de se séparer d'un mauvais copain, enfin, de devenir ce qu'elle est. Une petite maman en gerbe qui commence. Et on ne connaît d'ailleurs aucun cas d'une de toutes ces mamans-là qui se serait tournée contre nous après quelques années, après quelques échecs. Jamais, jamais, on a eu une seule reproche. C'est ce qu'on craignait au début un peu. Imaginez un enfant mal formé, on a eu des cas comme ça. Pas une qui aurait dit « mais vous m'avez encouragé », etc. Au contraire. Et disent « vous étiez les seuls à me tendre la main ».
Je crois que vous soulignez là une, on l'a évoqué avec Jean-Claude Martinez à l'Assemblée, un immense égoïsme de la société contemporaine, qui consacre 7 ou 8 fois moins pour l'accueil de la famille qu'elle ne consacrait en 1946 au lendemain de la guerre, dans une situation économique qui était épouvantable. Ouais. Ce que vous soulignez, c'est l'égoïsme monstrueux de la société, parce que effectivement, vous venez d'apporter la preuve, par le nombre de sauvetages réalisés, que si on tend la main, si on aide moralement, mais également matériellement, les cas en difficulté, eh bien, il y a toute chance qu'on puisse les résoudre.
C'est vrai. Elles se réveillent comme des lionnes. Parfois, elles défendent leur bébé plus que, mais très vite, plus que nous, au point de nous cacher leur réelle adresse, parfois. À tel point, elle devient une véritable forteresse avec son bébé. Et maintenant, j'y vais. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et je me dis souvent, le bon Dieu, il a quand même bien choisi la femme, ne, pour donner son bébé.
Ce qui est paradoxal, c'est que l'action de votre association repose sur des initiatives privées, même d'ailleurs discrètes, dans un contexte un peu sensible, même légalement. Alors qu'en principe, ce devrait être la société qui remplirait ce rôle.
C'est vrai.
Et qui est la société qui préfère dépenser son argent d'une façon, enfin, son argent, l'argent des contribuables, l'argent des contribuables,
d'une façon à aider la vie naissante, bien sûr. Mais en même temps, faut pas trop être pessimiste. Dans ce travail-là, on a fait vraiment des découvertes. Au début, on pensait on va lutter contre une mère, M-E-R, hein, une mère de méfiance et de dégoût de la vie. Non, c'est vraiment on a trouvé énormément de choses pas seulement agréables, mais qui sonnent d'espérance chrétienne. Par exemple, bon, les femmes elles-mêmes, on en a parlé tout à l'heure, même les plus jeunes, on a sauvé deux enfants de 11 ans qui ont donc accouché à 12 ans. Vous voyez, tout ça, c'est de l'école. Hein, et ces filles-là nous amènent après plein d'autres filles dans leur lycée. Il y a un lycée en Normandie, on a sauvé 25 bébés dans le même lycée. Hein, et c'était une qui a passé la parole de bouche à l'oreille.
Donne aux auditeurs de Radio Courtoisie la dimension que l'on pourrait, pour peu que se multiplient des initiatives comme la vôtre.
Mais on parle sexe.
Voilà.
Oui. La dimension sismique de.
Si on mettait l'argent pour la théorie du genre
absolument.
À disposition du sauvetage d'enfants. Alors je vais me tourner maintenant vers une. Il faut écouter une femme quand même. Hein. Vers Myriam Bécroute. Et je tenais. Non seulement j'ai une grande estime pour Myriam, mais elle a également l'expérience de la mère de famille, avec les préoccupations de chaque maman, et c'est tout à fait légitime. Et puis également une expérience d'élu local et d'élu conseiller régional pendant de nombreuses années, lieu également où est dépensé l'argent du contribuable et de quelle façon, peut-être va-t-elle l'évoquer. Mais Myriam, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce que vous ressentez. J'ai ressenti le besoin, je le dis très très d'une façon avec beaucoup d'humilité, d'accueillir votre sentiment en regard des propos de nos amis parce que vous êtes une femme. On a évoqué aussi bien la fin de vie avec Vincent Lambert.
Non, il n'est pas en fin de vie, hein, Vincent. Non,
bien sûr. Le danger, non, je veux dire, le danger de fin de vie active, c'est-à-dire le crime organisé par. Bon, et on a également évoqué la vie à naître. Alors, Myriam Bécroud, j'aimerais connaître votre sentiment. Regarde d'abord votre sentiment à vous, et puis ce que vous avez ressenti en écoutant nos deux amis.
Bah, pour revenir sur le propos de Wilfried, je voulais rappeler, moi j'ai eu à l'occasion, c'est très, très clair l'histoire de la mère qui veut sauver son enfant, et j'ai eu l'occasion, en marge d'une manifestation pro-vie, de rencontrer une jeune femme qui s'interrogeait sur cette manifestation, et qui sur le moment était... pas contente de cette manifestation, parce qu'elle croyait qu'on était en train de vilipender quelque part les personnes qui avaient avorté. Ouais. Et je lui dis, pas du tout, on fait une manifestation pour rappeler que la vie est très importante, qu'il faut faire attention à la vie et qu'il faut, et on prie pour éviter ces morts d'enfants à venir. Et bon, la façon dont je lui ai parlé apparemment l'a entraînée à me raconter sa propre vie. Elle avait avorté. Et d'elle-même, elle s'est confiée, elle a parlé, elle m'a dit, mais au fond, elle m'a dit, j'avais 16-17 ans, enfin, t'es toute jeune, et elle m'a dit, mes parents m'ont obligée à avorter. Voilà. Et je n'ai pas eu le choix, personne à côté de moi ne m'a dit, garde-le. Et elle me dit, je lui ai pas dit grand-chose, moi, c'est elle qui a parlé. Elle m'a dit, finalement, j'ai peut-être tué Einstein. Je lui ai dit... Alors après, je lui ai parlé d'espérance, je lui ai parlé que la vie n'était pas... Elle pouvait faire d'autres enfants, qu'elle aurait d'autres enfants et qu'il vivrait à travers les autres. Enfin, parce qu'elle avait d'elle-même, sans aucune religion, elle ressentait la vie qu'elle avait tuée et qui pouvait être une vie magnifique. Mmh. C'était naturel pour une femme, pour une mère. Quand on a un enfant en soi, il y a un instinct de protection pour l'enfant. C'est naturel. Toutes les mères vous le diront. Ouais, il y a toujours des cas particuliers, mais c'est normal. Donc, c'est pour ça que je crois que ce que vous dites est très juste. La société fait tout pour les obliger à ne pas écouter ni leur cœur, ni leur instinct. Parce qu'en soi, une femme, elle n'a pas envie d'avorter. Et si elle avait envie d'avorter, eh bien qu'elle utilise une contraception avant. On n'en parle jamais. L'avortement n'est pas un moyen de contraception. Tout simplement. Il y a des tas de moyens au jour d'aujourd'hui. Alors, comment fait-on pour avorter parce qu'elles sont inintelligentes? Ou je ne sais pas. Là, il y a un mystère. Elles ne prennent pas leur vie en main. Donc, je ne vois pas comment elles pourraient d'ailleurs prendre la vie d'un enfant en main, parce que si elles ne sont pas capables de prendre elles-mêmes. Donc, sur ce, je trouve que cette anecdote que j'ai vécue m'a paru tout à fait correspondre à cette attitude de la femme qui devient mère. Et qui effectivement ne veut pas perdre cet enfant. C'est antinaturel. Et ce que nous pouvons reprocher effectivement aux socialistes et même à d'autres, hein, parce que du côté de l'UMP, il y en a aussi beaucoup qui sont de la même veine, c'est de ne pas comprendre que toute une société est fondée sur une famille. L'individu n'existe pas. D'ailleurs, si d'autres pays tiennent la route, c'est parce qu'il y a une grande cohésion dans les familles. Il y a une aide. Et donc, on pourrait reprendre, alors, sur le plan politique, tout ce qui est contraire à la protection de la famille, etc., qui est mis en place par le gouvernement de maintenant. Et alors que, comme disait Michel, à la fin de la dernière guerre, il y avait en place des protections de famille, une aide aux familles, une aide à la mère. Elle pouvait... Bon, moi, je connais des femmes qui ont pu, pour la première fois, aller accoucher à l'hôpital, ce qu'elles n'avaient pas avant, donc avec quand même un minimum de soins. Bon. Donc tout ça, c'est en train de s'en aller. Et on voit bien que plus ça va, plus les parents, ce sera une décision grave d'avoir des enfants, parce qu'elle coûtera beaucoup d'argent. On peut aussi parler, ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, s'il y a des femmes, les hommes ne ressentent pas la même chose, d'où l'intérêt, n'est-ce pas, de faire l'abécédaire dans les écoles, pour surtout bien faire comprendre aux enfants, parce qu'ils disent, c'est pas la théorie du genre, mais l'abécédaire parle de casser le stéréotype fille-garçon. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Ça veut dire surtout ne vous prenez pas pour une fille ou un garçon. Moi, je l'interprète comme ça. Ne vous prenez pas pour une fille ou un garçon. C'est exactement ce qui est marqué dans l'abécédaire. Donc, c'est dire... Alors que, justement, il y a des filles et des garçons. Les jeux que l'on peut faire, les métiers que l'on peut faire n'ont rien à voir avec ce fondement qui est qu'une femme accueille la vie dans son corps. D'ailleurs, on n'a pas parlé de gestation chez les hommes. Enfin, on ne voit pas comment ils feront des... D'où les couples d'homosexuels seront obligés de passer par une femme. Il y aura gestation pour autrui. Alors que les couples de femmes, elles peuvent s'arranger. Déjà, elles ont la moitié du chemin de fait. Elles auront la gestation, elles pourront le faire. Mais elles seront bien obligées quand même d'utiliser un sperme masculin. Ça, elles seront obligées. Donc voilà, donc ça, tout ça, c'est une aberration. Au lieu de traiter des problèmes, je dirais, d'aider le citoyen, la famille, citoyen... J'aime pas, mais enfin bon, la famille, on pourrait comprendre qu'ils aident le citoyen. Non, non, ils détruisent tout ce qui fait le tissu profond d'un pays. Et depuis très longtemps, nous avons toujours défendu, Michel le sait bien, tout ce qui était accueil à la vie, et aussi la vie après. Et par pour des choses très simples, comme le revenu maternel, on voit... Enfin, moi, je rencontre... Je sais pas, ils ne doivent pas rencontrer ces gens-là. Moi, je ne sais pas, je dois rencontrer des gens qu'ils ne rencontrent jamais. Je rencontre des mères de famille qui ont un mal fou à s'en sortir. Elles sont obligées de continuer à travailler. Elles mettent leurs enfants, pas toujours dans des crèches parce qu'elles n'ont pas de place, mais avec des assistantes maternelles. Et là aussi, il y a beaucoup à en dire. Elles seraient bien plus intéressées par un revenu maternel chez elles qui coûte, je le rappelle, que tout le monde prenne les chiffres, moins cher qu'une place de crèche.
Bien sûr.
Donc on ferait là une économie et en même temps on favorise des mères et en même temps on crée du travail puisque ça libère des places de travail pendant momentanément. Mais la vie est un on n'est jamais au même moment. La vie est un fleuve. Les gens, à un moment, ils sont au bord de la rive, ils rentrent dans le fleuve. Et donc, ce serait une solution extraordinaire qui permettrait de s'y retrouver. Voilà. Et bien ça, on a toujours essayé de défendre.
Tout à fait. Et ce serait une reconnaissance. Merci Myriam d'avoir rappelé cette dimension également de ce que nous avons toujours revendiqué avec vous-même, avec Christian, votre mari, avec Jean-Claude Martinez et bien d'autres. Le revenu maternel. Qui, en outre, est une question de justice vis-à-vis de ces femmes, puisque, avec le système des retraites par répartition, ce seront les enfants de ces femmes qui paieront les retraites des femmes qui choisiront, elles, de ne pas avoir d'enfants, alors qu'elles-mêmes seront privées de retraite.
Je vais le dire après, parce que c'est, en plus, il y a une mise en place d'une retraite maternelle. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de mères de familles de 9 enfants qui avaient un strict minimum de 300-400 euros par mois, et leurs enfants payés pour la retraite des mères qui n'avaient pas eu d'enfants.
Alors des femmes qui n'avaient pas eu d'enfants.
Absolument. Des mères, enfin, tout à fait. Un enfant ou pas.
Oui.
Il y a quelque chose là de profondément injuste.
Bien sûr.
On parle d'égalité. Moi, je ne parle pas d'égalité. Je parle de justice et d'équité.
Bien sûr.
Et ça, c'est
même que la remise
plus
en cause du quotient familial, etc. Oui. Le mélange de la fonction de répartition pour les familles, avec l'aspect social, qui sont deux domaines totalement différents.
Et qui sont très faciles à mettre en place.
Absolument.
C'est donc une volonté politique de ne pas le faire.
Absolument. Alors, un rappel, Bénédicte, sur cette émission.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostelan. Le thème, le respect de la vie, fondement de la société occidentale. Avec Myriam Bécroute, mère de famille, élue locale et ancien conseiller régional. Jean-Claude Martinez, professeur agrégé de droit et de sciences politiques, ancien député et ancien député européen, auteur de « Euthanasie, stade suprême du capitalisme » aux éditions Via Romana. Et Wilfried secrétaire général de
Winfried Wuermeling.
Excusez-moi. Secrétaire général de UNEC, SOS Maman.
Alors je voudrais signaler à nos auditeurs, mais ça c'est une réminiscence que vous provoquez directement, puisque ces travaux de l'Assemblée auxquels nous avons contribué les uns et les autres, je les ai relatés dans un ouvrage à l'époque qui s'intitule « Lettre ouverte à mon peuple qui meurt », paru aux éditions Fernand Lanneur. Ça raconte tout ce combat législatif que nous avons mené et qui a laissé des traces au sein du service de documentation de l'Assemblée nationale et du personnel de l'Assemblée nationale. Nous avions été à l'origine de la création du groupe parlementaire pour favoriser l'accueil de la vie, groupe d'études parlementaires pour favoriser l'accueil de la vie, avec trois coprésidents qui étaient, outre moi-même, Hector Roland et Christine Boutin, et avec également des antennes dans les autres parlements nationaux, dont le Parlement européen, dont le Parlement allemand, le Bundestag, à la personne de Madame Ferlusdank. J'ai donc relaté tout ce travail parlementaire dans cet ouvrage « Lettre ouverte à mon peuple qui meurt », paru aux éditions Fernand Lanneur. Je ne sais pas si c'est... Je crois que cette édition est maintenant épuisée, mais il m'arrive de temps en temps, avec la toile, de cliquer et de voir que sur les sites de revente d'ouvrages d'occasion, on retrouve cet ouvrage « Lettre ouverte à mon peuple qui meurt », paru aux éditions Fernand Lanneur. Alors Bénédicte, nous avons reçu un certain nombre de messages, j'aimerais que vous nous en donniez lecture.
Une auditrice: en Pologne, où le droit à l'avortement est restrictif, le gouvernement offre à la femme enceinte de quoi vivre, plus une formation diplômante, et ensuite l'État se retourne vers le père biologique pour qu'il rembourse l'État. Cela responsabilise les hommes. Une auditrice: est-il normal de coucher à 13-15 ans en ce qui concerne les filles? Ne serait-il pas plus utile de les rééduquer de la part des associations? Une autre auditrice: à quand l'éducation évangélique des mâles à la compassion et à la responsabilité? Je ne suis pas féministe. Un auditeur: l'électroencéphalogramme, dont personne ne parle, révèle certainement une activité électrique normale. Cet EEG n'est pas plat. L'activité cérébrale réelle, des potentialités de restructuration vers un état normal. Évidemment. N'est-il pas possible de diriger Nicolas Lambert vers un CHU qui lui est favorable ou vers des cliniques
bien
privées?
Bien sûr, c'est la question qu'on se... On se pose tous. À Nancy, on est prêt à l'accueillir. À Strasbourg, on est prêt à l'accueillir. Quand on lui lâche les baskets, à Vincent.
Alors, écoutons la suite, parce que c'est un toubib qui écrit.
Un CHU ou qui lui est favorable, ouvert à des cliniques privées, où les questions neurologiques sont sérieusement étudiées.
Évidemment.
En faveur de la vie.
Alors, je précise que l'auditeur qui a téléphoné est lui-même neurologue et psychiatre.
Mais oui, mais le professeur Ducrot, comme Ducrot qui se décarcasse, le professeur Ducrot, je ne sais plus, de Nancy ou de Strasbourg, mais il dit, mais moi je l'accueille dans mon service.
Autre question d'auditeur.
On lui lâche les baskets à ce garçon.
Alors, un auditeur, monsieur Martinez, vous avez évoqué un jugement référé dans le cadre de l'affaire Lambert. De quel référé s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un référé suspension ou d'un référé constatation? Le référé suspension, c'est l'article L521.1, et le référé constatation est l'article R531.1.
Oui, c'est un référé liberté que fait, encore une fois, notre ami fantastique,
Triomphe.
Cet avocat Jérôme extraordinaire, Triomphe. Jérôme Triomphe, son nom à lui tout seul, est, etc. Donc, c'était devant le tribunal administratif de Champagne, j'ai un trou de mémoire.
Chalon en Champagne. Autrefois, Chalon-sur-Marne.
Et bien que ce soit, c'est ça qui me perturbait, bien que ce soit en référé où uniquement le président aurait pu statuer tout seul, il a statué à l'Assemblée plénière. Neuf magistrats était là, finalement. Et le magistrat, on dit, on le réalimente, on le réhydrate. Depuis 30 ans, pour reprendre la formule magnifique de Jérôme, Triomphe, depuis 30 ans, un avocat plaidait pour en condamner à mort. Et parce que, à l'instant où nous parlons, nous ne sommes pas au Texas. Nous ne sommes pas au Texas, dans le couloir de la mort, on est à Reims. Et bien, à Reims, il y a un couloir de la mort. Au CHU de Reims, il y a un couloir de la mort. Et là-dedans, il y en a un qui attend. Il y en a un qui attend, comme on voit, la Cour suprême, les avocats attendent, la seringue est prête, pour le piquer, et bien là, il y a un garçon, Vincent Lambert, il est dans le couloir de la mort. Voilà. Parce que son épouse, pour 52 000 raisons, parce que le neveu, se demande ce que vient faire le neveu. Le neveu, c'est pas le neveu de Rameau, dans le cas. C'est pas ce que vient faire le neveu, là aussi, qui fait une instance. Mais ce qui est terrifiant.
Mais si les parents de Vincent Lambert n'étaient pas intervenus?
Ah ben si. Et quand ils interviennent parce qu'ils habitaient en province, ils découvrent que le petit était plus alimenté. Quoi. Alors la mère, elle est pas mère. Non, elle est catholique. Alors si elle est catholique, évidemment. vraiment, elle est obscurantiste. Oui. Voilà. Si la mère avait été bouddhiste, peut-être, éventuellement. Voilà, non, les avocats disent, mais oui, bah, écoutez, elle est catholique, en plus catholique traditionnaliste, alors vous imaginez, quoi. C'est une barbare, enfin, c'est une barbare. Elle est arrivée, elle vient de traverser le Rhin avec des chariots, des hirsutes, avec des cornes, voilà. Elle marchait à quatre pattes, elle était avec des peaux de sanglier, voilà. Non, mais tout ça est... Mais de façon très, très, j'allais dire très sérieuse, mais dans le cas de Vincent...
C'est le sujet, parce que j'évoquais tout à l'heure la barbarie. Mais où est la barbarie?
Mais bien sûr.
Et c'est là où, véritablement, il y a un pilonnage. Il y a un pilonnage médiatique. Et c'est ça le problème de fond. Lorsque nous en arrivons, mon cher Jean-Claude, au sujet, le respect de la vie, fondement de la société occidentale.
Ah non, mais les spécialistes de la lumière, là, c'est pas Goethe, de la lumière. Eux, dans la nuit, des nihilistes, voilà, la voix qui dit non, les nihilistes. Mais ce qui est gravissime, c'est pour ça que là, nous sommes en période de basculement, et il faut un référendum, hein, là-dessus. Le référendum, il aura lieu le 25 mai aux européennes. Il faut qu'il y ait des listes forces vives, et puis il faut qu'il y ait...
Vous-même, vous serez candidat?
Oui, moi, je serai candidat.
Dans la région
sud-ouest. C'est une vieille manie du tréfonds de la vie. Déjà en 2009, j'étais candidat à l'Europe de la vie. Je vais retourner force vie, l'Europe de la vie. Mais je voudrais que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent bien l'enjeu. Et dans votre intitulé, vous avez mille fois raison, Michel, mais c'est même pas que l'Occident, c'est le monde entier. Quelques chiffres. Il y a déjà 450 millions de personnes âgées en Chine. 450 millions de personnes âgées en Chine. Bon. Ici, on est dans la dizaine de millions. Bon. Nous avons 840 000 Alzheimer en France. 840 000 Alzheimer. Alors, à la mesure du docteur Carrégère, ils n'ont pas une grande qualité de vie. Là, si on décide que les 840 000 Alzheimer n'ont pas une qualité de vie, ça va être pire que les bûchers titanesques de la Grande-Bretagne, où on a brûlé 5 millions de bovins et d'ovins à titre préventif. Ça va être quelque chose d'apocalyptique. Mais la courbe démographique planétaire est en train de se retourner, contrairement à ce qu'on imagine. La courbe démographique planétaire se retourne. C'est-à-dire, on nous annonçait qu'il allait y avoir un tsunami de vie. Vous vous rendez compte, il allait y avoir plein de vivants. C'est affreux, plein de vivants. Juste une image. Sous la présidence du président Carter, le grand physicien Carl Sagan, qui vient de mourir il y a à peine 2 ans, avait lancé 2 sondes. La sonde Voyageur 1 et la sonde Voyageur 2, sous la présidence Carter. Et qui était chargée de sortir du système solaire et de voir s'il y avait de la vie dans l'univers. Ces 2 sondes sont parties. On avait enregistré quantité de choses, dont le rire d'un bébé sur les sondes. On avait enregistré un extrait de Beethoven, le rire d'un bébé, un bruit d'un tracteur. On avait enregistré. On avait mis les grandes formules mathématiques que nous connaissons. On avait fait comme la manif pour tous, un petit dessin de l'homme et de la femme et du bébé. Ces sondes sont parties dans l'espace infini. Il y a 2 ans, elles sont sorties de l'héliosphère. On n'a rien capté. Quand on crie à quelqu'un, personne n'a répondu dans l'univers. Les 2 sondes sont sorties du système solaire, elles n'ont rien capté. Il n'y a personne. Pour le moment, en tout cas à la dimension, pour le moment, il n'y a personne. En tout cas, dans le système solaire, il n'y a pas un rat, il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Bon. Alors, 7 milliards de personnes dans un vide infini. Bien sûr, le chasseur qui voit passer des palombes à Roncevaux ou dans l'école du Pays Basque, il a l'impression qu'il y a plein de palombes, mais pauvre imbécile, c'est un miracle, les quelques palombes à la dimension de la Terre, c'est quelques palombes qui passent, pam, il tue des palombes. Alors l'autre dit, il y a 7 milliards, Vincent Lambert, on tue Vincent Lambert, 450 millions de personnes âgées en Chine, allez, on tue 450 millions de personnes âgées, etc. Les maisons de retraite françaises, qui sont une abomination. On entend un Albert Londres qui décrive ce qu'est finalement Cayenne des maisons de retraite françaises. On attend un Albert Londres des personnes âgées qui rentrent. Les 3/4 de personnes âgées en maison de retraite sont dépressives, sont sous médicaments. Moi, je m'en souviens, j'étais son conseiller en fiscalité à 102, Sa Majesté à 102 disant, le jour où on ouvrira une maison de retraite au Maroc, ce sera la fin du Maroc. Eh bien, on a ouvert les maisons de retraite au Maroc et le Maroc est en difficulté. Alors, autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a un combat gigantesque de géants herculéens pour la vie sur la planète, Michel, sur les sociétés occidentales, mais sur la planète. si nous gagnons ce combat, ce miracle exceptionnel au niveau de l'univers, ce miracle de la vie va se poursuivre avec la main de je ne sais pas qui, avec l'esprit de je ne suis pas qui. Moi, je veux bien que ça soit dû au hasard ou à la nécessité, comme disait notre prix Nobel avec Loff et Jérôme Monod. Mais je crois qu'il y a peut-être l'esprit quelque part en action. Mais ce combat, maintenant, sur cette exception qui est la Terre, ce miracle de la vie qui est en danger, 450 millions de personnes. Le premier ministre japonais intervenant à la télévision et demandant aux personnes japonaises d'être raisonnables et d'accepter de raccourcir leur vie, parce que la dette a dépassé 230% du PIB japonais. Le premier ministre leur demandant, après avoir essayé de déporter les vieux japonais aux Philippines, parce que ça coûtait moins cher. Alors vous voyez, quand vous mettez bout à bout le débat en Belgique pour savoir si un petit de moins de 12 ans pourra accepter d'être euthanasié, on a le débat en Belgique pour les enfants de moins de 12 ans, après avoir légalisé l'euthanasie en Belgique. Pareil aux Pays-Bas, pareil les cliniques au bord du lac Léman, où on arrive avec une Porsche, et puis on repart dans une petite urne qu'on balance dans le lac Léman. Enfin, on est chez les fous. On est chez les fous. Chez les fous. C'est pas l'ABCD de l'égalité, c'est l'ABCD des allumés. On est chez les allumés. Ils ont tiré, je sais pas quoi, sur le hashish, je sais pas sur quoi ils ont tiré, mais ils sont cinglés. On est chez les cinglés. C'est les cinglés planétaires.
Alors, mon cher Jean-Claude,
voilà le combat là. Il est là.
Vous êtes éblouissant, et je crois que les auditeurs partagent mon sentiment. En tous les cas, il est certain que nous sommes dans une époque de rupture, que soit on réagit, soit on ne réagit pas. Et je crois qu'effectivement, et je l'ai toujours d'ailleurs prôné, c'est ce sujet-là qui doit conditionner nos votes à venir.
Mais bien sûr.
Est-ce que c'est pour la vie ou c'est contre
la vie?
Voilà,
les deux grands partis. Les partis de la vie et les partis de la mort.
C'est ça les deux
grands partis de l'élection européenne.
C'est
deux camps.
Contre la culture de mort, si justement...
Camp de la vie ou camp de la mort.
Tout à fait.
Il faut que le 25 mai, ça soit clair.
Nous n'avons même pas, à ce stade de l'émission, abordé la théorie du genre. C'est bon. Sur lequel je ne doute pas qu'il y aurait de votre part des élans extraordinaires. Je voudrais quand même que nous écoutions les auditeurs de Radio Courtoisie. Et puis, je demanderai également à notre ami Wilfried Vermeling de nous dire un petit peu ce qu'il ressent, et à Myriam, bien évidemment. Écoutons les auditeurs de Radio Courtoisie.
Une auditrice, pour les femmes violées, quelle est la solution pour elles? Une autre auditrice, merci pour l'émission et aux invités. Combien coûte à l'heure actuelle une IVG?
On remboursait 450 euros.
Une auditrice, le chômage de masse et l'excès de fonctionnaires est la conséquence du travail de masse des femmes qui, en ayant le même niveau de vie, resteraient à la maison. D'où la nécessité d'un revenu parental qui a une valeur économique.
Rappelons que si en Allemagne il y a un pourcentage infiniment moindre de chômeurs, moins de 7% comparativement à la France, c'est parce qu'une majorité de femmes en Allemagne, qui ont un niveau de vie au moins équivalent à celui des Français, sinon supérieur, est à la maison.
Une auditrice, pour avoir une qualité de vie, il faut arrêter la vaccination à tour de bras. Et une autre auditrice, il faut rééduquer l'homme, il est responsable de cette situation.
Beaucoup d'auditrices qui sont exprimées, n'est-ce pas Myriam?
Oui.
Alors Wilfried Wermeling, qu'est-ce que vous avez pensé d'abord des... Et vous qui vous occupez plutôt du début de la vie, mais vous n'avez pas été insensible aux propos, je pense, de Jean-Claude Martinez.
C'est le même sujet. C'est la vie à la base de tout, la vie oubliée. Et il y a effectivement maintenant les uns pour la vie, les autres contre.
C'est même pas la vie oubliée, c'est la vie combattue.
Oui. On ne laisse même pas la vie se poursuivre. On l'arrête.
Oui. Non, je pense que c'est chaque injustice appelle des énormes détresses. Et en même temps, les détresses donnent l'opportunité d'une véritable conversion. Vous avez parlé de cette dame tout à l'heure qui ne savait plus quoi faire. Elle se trouve enceinte et personne ne l'aidait. Vous avez dit,
ben si, sa mère l'a forcée.
Et nous, on connaît beaucoup cette situation. Et c'est là qu'elle développe ce courage héroïque, il faut le dire. Combien de jeunes filles ont vécu ça à 16 ans, 17 ans, d'un viol, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, ou l'auditeur plutôt, violé. Par, vous savez, des tournantes, des histoires comme ça. Là, on a eu 3 la semaine dernière. 3 de la même tournante qui sortaient enceintes. Mais c'était une dizaine. Hein. Bon. Alors on les a rattrapées, on a parlé avec elles, on les sauve actuellement. Deux restent chez les parents sans rien dire pour l'instant, parce qu'on cherche une solution, et la troisième, on l'a déjà hébergée.
Et ce qui est d'ailleurs remarquable, je voudrais le dire quand même, mon cher Winfried, c'est que souvent vous sortez également des filles des réseaux de prostitution, des réseaux mafieux, ouais, avec des risques considérables, oui, à la fois pour ces filles, mais
alors,
même pour vous-même.
Le pire qu'on a vécu dans ce sens-là, c'était des Irakiennes. On avait trouvé deux Irakiennes, je peux vous dire, Place de Clichy, qui traînaient là, 13 ans et 17 ans. Madeleine, l'aînée, elle avait 17 ans, elle parlait un peu anglais, la jeune, elle parlait rien du tout. Enfin, elle parlait l'arabe, non? Et elles étaient chrétiennes. Elles sortaient la croix sous leur chemise.
Chaldéennes.
Oui, comment ça s'appelle là-bas les...
Chaldéens,
voilà. Oui, Chaldéens. Elles étaient chaldéennes. Et bon, j'ai dit, si elles continuent...
C'est les plus anciens chrétiens.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, enceintes, toutes les deux. Et enceintes de qui? Enceintes de terroristes, enfin de malfrats à Bagdad, qui ont attaqué... leur famille, parce qu'ils étaient catholiques, qui ont tué devant les yeux des enfants les deux parents et le frère aîné, et qui ont violé ensuite les deux filles. Et les deux filles, je les avais devant moi. Alors j'ai dit, si on n'intervient pas immédiatement, dans deux semaines, elles vont à la place Pigalle, à côté. Hein, c'est 200 mètres. Il n'y a pas d'autre solution si on n'intervient pas. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles n'ont pas de papier. C'était un cousin qui l'a envoyé, un cousin éloigné à Paris et qui le logeait dans une arrière-cuisine. Il fallait immédiatement intervenir. Et si possible, dans les 24 heures, comme on a l'habitude de le faire. Bon, on a sauvé les deux. Mais là, j'ai vu ce que c'est. Être violé pour une fille, c'est pas facile à digérer. Alors, notre langage, dans ce cas-là, c'est de dire le bébé, c'est un... Et le violeur, c'est un autre. Le violeur est à rejeter, est terminé, mais ton bébé, il est là. Et ça, alors pour ma femme,
c'est important,
par exemple,
ce que vous dites, parce que c'est la spécificité. Oui.
Pour un enfant, ça rentre.
C'est la reconnaissance de la personnalité,
oui,
de l'enfant à
absolument
naître.
Absolument.
Et lorsque. Et alors, alors, je me tourne vers Myriam Bekrout, parce que l'un des arguments, c'est de dire il faut laisser aux femmes le droit de disposer de leur corps. De disposer de leur corps, oui, mais du corps de leur enfant qui est une autre
absolument
personne. Voilà. Alors,
absolument d'accord. Mais que la femme soit libre, surtout au monde, bon, elle croit être libre de leur corps. On n'est jamais libre de rien, d'ailleurs, puisqu'on doit décider soi-même, on fait un choix. Mais en tous les cas, de l'enfant qui est un être, non. C'est pas elle de décider, il est là et la vie est là. Et je crois que l'attitude que vous avez par rapport aux femmes violées, elle est, je crois que c'est ça, c'est de les accompagner. Voilà. Et d'arriver à leur faire comprendre qu'est-ce qui est plus fort en elle, la vie qui est en elle ou la mort qui a voulu quelque part provoquer le violeur, puisque c'est ça, il a violé et il aurait pu tuer aussi bien. Donc à elle de décider, on ne peut pas les forcer, il faut qu'elles aiment cet enfant. Mais il faut savoir qu'effectivement c'est un être tout à fait différent. Et on peut avoir un enfant exceptionnel qui est né d'un violeur. Il n'y a pas, à ce niveau-là, il n'y a pas... justement de, comment on dit,
de prédétermination.
Voilà, hein, de prédétermination de l'enfant et de ce qu'il sera. Donc c'est à elles de le décider en leur âme et conscience, mais si elles n'ont pas les moyens, je dirais un minimum de moyens et d'aide derrière elles pour dire « je tiens le coup », elles ne peuvent pas prendre leur choix librement. C'est exactement comme les femmes qui disent « ah mais vous voulez ramener les femmes chez elles, à la cuisine, avec le revenu maternel ». Pas du tout. On veut leur laisser le choix. Le choix librement, c'est d'avoir le moyen de choisir.
Il ne s'agit pas de condamner, il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'aider.
D'aider.
Voilà. Et de permettre, qui plus est, l'instinct naturel de toute femme.
Mais bien sûr, mais bien sûr. Et qui est heureusement l'instinct de vie. Et qui, comme disait très bien Jean-Claude Martinez, c'est ce qui nous permet d'être là et d'avoir une terre qui sera peut-être toujours habitée par des hommes. Il vaut mieux quand même que ça dure.
Oui. Je me retourne à nouveau vers Winfried Vermeulen et je voudrais quand même le féliciter parce qu'il nous donne des exemples extrêmement concrets. C'est un homme, vous l'avez compris, de terrain qui fait des opérations de sauvetage et je dois dire que nous sommes extrêmement sensibles à cela. Nous ne sommes pas dans la théorie. Il nous faut refonder effectivement les principes du droit. Et je remercie énormément Jean-Claude Martinez de s'atteler par son travail à cet état actuel, cette contestation. Nous allons parler un petit peu de la théorie du genre pendant quelques minutes qui nous restent. Mais je voudrais féliciter Wilfried Wermeling et tous ceux qui l'entourent pour le fait d'avoir sauvé 900 et quelques enfants. Et si on peut multiplier cela, s'il y avait des initiatives équivalentes dans d'autres régions, ce serait un nombre infiniment plus important de jeunes mamans qui seraient aidées.
Oui, parfois, je pense si on avait 1000 groupes SOS Maman, bon, on en a 7 pour l'instant, hein, mais si on a plus une douzaine d'hébergeuses qui elles-mêmes trouvent elles-mêmes spontanément après d'autres enfants, donc ça fait des petits ruisseaux partout. Mmh. Alors, si on avait 1000 petits groupes comme ça, on n'est que 3 actifs, hein. Et 12 hébergeuses et puis 900 donateurs. Bon, c'est ça, SOS Maman. Mmh. Alors, si on avait 1000 groupes comme ça, il n'y aurait plus d'avortement en France. Mmh. Il y aurait les lois, on laisse faire joujou les députés avec les lois.
Bien sûr. Hein, bien sûr.
Avortement ou non, et en bas, il n'y a plus d'avortement parce que résorbé par l'amour chrétien.
Bon, il ne faut pas rêver, on en aurait quand même parce que malheureusement, beaucoup de femmes utilisent ce moyen comme contraception, c'est ce qu'on disait. Mmh. C'est pour ça que ça ne doit pas exister, cette loi. L'avortement n'est qu'un recours ultime. Pour même des femmes qui croient en rien, qui ne veulent pas, bon, ça doit être ultime. Elles ont d'autres moyens avant.
C'est vrai qu'une fois, j'étais chez des jeunes dans un camp d'été. C'était 25 personnes environ, que des jeunes de 18 à 25 ans. Et je devais parler justement de SOS Maman. Et ça, c'est très rare que j'ai un public masculin. Normalement, je parle aux femmes, aux grandes-mères, aux hébergeuses, etc. Et très, très rarement, des jeunes garçons. Hein, vraiment, ça ne les intéresse pas trop. Il faudrait effectivement parler un peu plus des hommes dans cette affaire-là.
Oui.
Bon. Peut-être un autre thème. Et les jeunes, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec des femmes riches qui veulent avorter? Et là, j'étais assez perplexe parce que la question, elle est pertinente. Effectivement, une femme riche, une secrétaire à la Défense qui se vante devant les copines, moi j'ai déjà avorté 3 fois, bon, etc. Et qu'est-ce qu'on veut faire, nous, SOS Maman, face à une telle femme? Et là, je leur ai dit aux jeunes, mais là, on comprend pas un peu mieux l'évangile. Je crois le bon Dieu lui-même, il ne sait pas quoi faire face aux riches. Il l'a d'ailleurs dit. Il a dit, heureux les pauvres, ceux qui sont ouverts, ceux qui savent tendre la main, accepter une aide. C'est la première condition d'accueillir les.
Non, mais là, faut la voir par voilà. La en disant qu'elle est une idiote, parce que être 3 avortements, ça veut dire qu'elle sait pas du tout y faire, quoi. Ouais. Voilà, faut le prendre sur le plan d'intelligence. Parce qu'effectivement, elle a les moyens d'avoir un enfant.
Ça veut dire aussi surtout qu'elle n'a pas la conscience de son propre échec.
Oui, oui.
C'est surtout
c'est pour ça.
Je
dis à la limite, faut la prendre en disant, mais vous êtes assez.
Alors,
pour
nous avons un message d'une amie de la mère de Vincent Lambert qui dit ceci. L'affaire vient au Conseil d'État jeudi matin à 11h. Voilà. La maman de Vincent Lambert demande que l'on fasse une chaîne de prières. Donc, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie qui croyaient, eh bien, associez-vous à la maman de Vincent Lambert. Et je vais demander à Bénédicte de donner la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Oui, une auditrice. Il n'y a que dans les camps de concentration de Hitler qu'on tuait les malades et personnes âgées. Il n'y aurait bientôt plus de différence entre Hitler et les dirigeants de maintenant. Un auditeur. Excellente émission d'actualité brûlante. La manif d'hier le prouve. L'affaire Lambert qu'on veut associer à un vrai scandale, qu'on veut assassiner, est un vrai scandale. Votre invité étouffe de colère contre cette morale mercantile. La dérive passe par la théorie du gender et finit par les avortements économiques.
Ben oui, c'est ça.
Oui.
Merci à Radio Courtoisie qui seule aborde de ces sujets de société qui se créent sous nos yeux. Vive Radio Courtoisie. Alors, un auditeur, pourquoi ne citez-vous pas l'association Droit de naître?
Voilà, je crois que... Alors, autre question? Oui, ça, on l'avait déjà évoqué. Donc voilà le message, en tous les cas, de transmis par la famille de Vincent Lambert. Et je voudrais quand même qu'on aborde un petit peu, on ne pourra pas le traiter, puisque nous avons à peine un quart d'heure. Mais la théorie du genre, qui souhaite aborder le sujet?
Myriam Aline. Je porte un pantalon.
Ben écoutez-moi, puisqu'on fait sans arrêt des rappels de ce qu'on a vécu, moi je peux vous dire que j'ai vécu avec mes petits-enfants, je les ai regardés vivre. Ben le genre, il est là, hein, dès la naissance. Un garçon, il regarde des choses qu'une fille ne regarde pas, et vice-versa. Et ça, je suis... ça m'a frappée, parce qu'autant les miens, je vivais avec, je faisais pas attention. Mais là, quand ils sont tout petits, qu'on leur a rien appris encore, ils ont instinctivement... des réactions, voilà. Alors après, il y a des différences. C'est vrai qu'il y a des garçons qui seront plus, qui auront envie de jeux de filles, et des filles qui auront envie. Mais c'est très bien, c'est la liberté, bon sang. Mais pourquoi briser l'instinct? Est-ce que on est complémentaires? Il y a des filles et des garçons, on est complémentaires.
Notre ami Jean-Claude, voilà. Il brûle de dire quelque chose.
C'est évident, Myriam. Je viens de passer 3 ans à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Qu'est-ce qu'on dit là-bas de la théorie du genre? Qu'est-ce qu'on dit là-bas du mariage homosexuel?
La République démocratique du Congo, puisqu'on introduisait la TVA. Bon, je ne sais pas si elle est de sexe féminin ou sexe masculin, la TVA. Voilà, depuis le 1er janvier 2012, nous avons la TVA à RDC. Mais j'avais une grande expérience aussi de l'Amérique latine. J'ai fait des cours à des petits enfants dans le cadre des écoles de téléphonique à l'été, à des petits Péruviens de la banlieue de Lima, etc. Bon. Mais quand vous êtes un Congolais, et vous voyez de l'aéroport, par exemple, à la ville de Kinshasa, tous les matins dans les deux sens, sur des kilomètres et des kilomètres, des gens marchent, mais avec beaucoup de dignité, beaucoup d'allure, marchent à pied pour rejoindre voilà, l'endroit où ils vont dormir, etc. Mais, et tout ça, il y a un grouillement de 65 millions de personnes dans la ville de Kinshasa. Chassa de 15 ou 20 millions de personnes. La préoccupation, c'est avec plein d'enfants de rue, finalement, de petits, voilà, les chégués, ils sont parfois un petit peu spéciaux, quoi, enfin, un peu violents, quoi. Mais de là où on se bat pour la vie, bon, on se bat, il faut trouver à manger, il faut trouver à dormir, etc. Le truc du genre, je suis une petite fille, je porte un pantalon, je suis un petit garçon, je porte une robe, mais c'est raisonnement, mais ça effleure personne. Et mes petits que j'avais là dans la banlieue de Lima, au kilomètre 43, qui me faisaient plein de dessins, l'hôtel B, dans une autre escouelle, la professeur, etc. Bon, mais la théorie du genre, le petit péruvien ou la petite péruvienne, mais autrement dit, ce sont des raisonnements, pardonne-moi, mais de riches finalement, d'hyper privilégiés. Voilà, ils sont là à Paris, dans le Marais ou dans le Marécage, je ne sais pas où.
Dans le Luberon.
Mais voilà, ils sont au Luberon, ils sont dans les riades de Marrakech, je suis aussi pauvre au Maroc. Hein. Alors bon, ils s'ennuient, ils ont tout, ils sont gavés comme des porcs, et gavés au caviar, voilà. Bon. Alors bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, alors, on fait un petit peu d'euthanasie. Bon, l'IVG, ça, on a déjà fait ça. Bon, il nous reste encore, bon, je crois qu'il y a le débat en Allemagne, est-ce qu'on peut épouser son cheval, son chien, son serpent, son crocodile? Ça va arriver, puisque c'est dans la lutte des preuves. Bon, on va, la barrière de la zérophilie, bon, on va y arriver, un truc. Bon, bah oui, bon, alors les vieux, c'est bon, on l'a tué, bon, l'IVG, c'est bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben tiens, on va faire un truc du genre, quoi, voilà, se distraire, vous voyez, bon, ils jouent plus au poker ou à la belote, ou le bridge, ça c'est fait pour les pauvres, quoi, finalement. Et ils s'enduisent, ce sont des ultra riches. Alors, ils ont fait mai 68, voilà. Ils ont
fait.
Non, mais ils ont fait au Caire. Il y a plus des nihilistes. Au Caire, ils ont joué. Ils ont renversé Moubarak. Ils le remplacent par Sisi. Ils vont jouer en Syrie, ce qui est quand même dramatique. Ils détruisent Alep, etc., etc. Et c'est des raisonnements, encore une fois, des raisonnements de riches, de privilégiés. Ce sont des raisonnements d'hyper privilégiés et tournants qui ont besoin. Juste d'un petit cancer du sein, pas métastasé, quoi, juste pendant quelques mois pour qu'ils comprennent, finalement. Puis un petit trouble, finalement, pancréatique, finalement, avec une petite chute de la glycémie dans la zone de 0,50, quand on commence à avoir les oreilles qui se bouchent et qu'on commence à avoir des étoiles et que la tête qui tourne. Il n'y a que ça qui pourrait les ramener un petit peu à la raison. C'est la première phrase du livre de Don Quichotte, le Don Quichotte de la Manche. Je vais le dire en espagnol, puis je vais le traduire. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme vivía un caballero. Había leído tanto el libro de caballería que se le secó el cerebro. Dans un village de la Manche vivait un chevalier. Il avait lu tellement de livres de chevalerie que son cerveau s'était desséché. Eh bien, les Attali et tout ça, ils ont lu tellement de livres d'économie sur la rentabilité, le profit, ils sont passés par HEC, l'école de Toulouse, etc. Ils ont lu tellement de livres d'économie que leur cerveau et leur âme, éventuellement, se sont desséchés, finalement. Et donc, ils sont plus que des conceptuels, quoi, finalement, des purs esprits. Et entendu que comme comme Platon, il y a quand même des gens qui les nourrissent, qui leur donnent la cuillère de caviar, il y a des esclaves qui changent les draps de soie tous les matins, finalement. Bon, alors bon, alors un coup ils se reçoivent comme Gide, etc., un petit peu d'homosexualité, un petit peu d'euthanasie, des grands pervers que donne la privilégiature. Et ils sont devenus nihilistes. Ça, c'est le sommet de la perversion, c'est le nihilisme, la voix qui dit non à la vie, c'est tuer pour l'esthétique de la mort. Et alors ces gens-là ne comprennent pas que lorsque vous avez piqué Vincent Lambert, lorsque vous avez tué quelqu'un, à la seconde où vous l'avez tué, il n'y a plus rien, il y a la pierre. On parlera après, est-ce que l'âme continue, etc. Mais il n'y a plus rien. Tant qu'il est là, qui suit du regard, le nihiliste, il est content, parce que voilà, il va exercer, ou il va violer, parce que c'est du même niveau. Le viol, l'euthanasie, l'agression, c'est du même niveau. Mais après, quand l'autre est mort, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Alors, moi, je leur donne simplement rendez-vous. Personne n'est à l'abri d'un AVC. Personne. Hein. Le rédacteur en chef de L parcourait la planète. Un jour, il est descendu de sa voiture, il a eu un petit malaise, et il a écrit, juste avec une paupière, en clignant de paupières, le scaphandre et le papillon. Hein, dans la seconde, sa femme est partie. Et il disait, il comprenait que ses enfants venaient le voir. Il disait, mon Dieu, j'aimerais que ma main bouge pour passer la main dans les cheveux de mes enfants. Quoi. Bon, ouais. Même directeur international de Elle. Alors, M. Humbert, le patron du Point, M. Humbert a fait un accident vasculaire cérébral, a disparu de la circulation. Hein. Alors, je ne sais pas s'il était pour ou contre, s'il pensait, comme le professeur Israël, que le rôle d'un médecin, ce n'est pas de souffler sur la bougie, ou s'il pensait que le rôle d'un médecin, c'est de déclencher une tornade et voir de faire pipi comme un petit cochon sur la bougie. Bon, ça, je ne sais pas. Mais tous ces gens-là, tous ces pro-euthanasies, un jour ou l'autre, un peu de cholestérol, l'AVC existera, l'AVC arrivera. Et là, là c'est plus pareil. Hein. Tant qu'on est en bonne santé, qu'on vient du ski, qu'on est bronzé, on est pour l'euthanasie. Mais quand on est en situation, là, c'est plus pareil. Un dernier mot, le bouquin, Une larme m'a sauvé. Hein. La dame avait signé un prélèvement d'organes et elle avait signé une incinération. Et le médecin disait à son mari, mais voyez bien qu'elle est morte. Et elle entendait tout. Et sa préoccupation, elle disait, mais bon sang, ils vont m'enlever un rein, ils ne savent pas que je suis vivante. Mais bon sang, ils vont me brûler vivante. Heureusement, il a coulé une larme. Heureusement, il y avait sa fille. Heureusement, la fille a tenu le coup. 6 mois après, elle cavalait comme un lapin. Voilà, voilà. Une larme m'a sauvé. Hein. Voilà.
Bénédicte, écoutons les auditeurs de Radio Courtoisie.
Oui, un auditeur. En Chine, il paraît que ce sont beaucoup de petites filles que l'on enlève des ventres de leur mère à cause d'un sexisme immonde. Est-ce exact et en avez-vous connaissance? D'associations comme la vôtre qui luttent pour cette chose horrible et contre le politiquement correct du gouvernement chinois. Et bravo pour l'émission, quel courage vous avez tous. Une auditrice, livre à lire de David Hick, Le plus grand secret.
Hick. A-I-C-K-E.
Une éditrice, on n'a pas de droit de vie ou de mort sur les innocents. Un auditeur, ce n'est pas aux députés de nous dire ce qu'il est bien ou mal, c'est à nous de faire en sorte de dire aux députés ce qui est bien ou
sûr.
Mal.
25 mai, référendum européen sur la vie.
Une auditrice, les femmes violées peuvent toujours accoucher sous X parce qu'elles sont inconnues. Salut.
Voilà, alors je vais demander à Myriam Bekrout de nous donner son sentiment au regard de ces interventions.
Moi, je voulais compléter. Je pense que Jean-Claude Martinez a une idée extraordinaire sur la vie, sur la façon dont les gens réagissent, sur le moteur profond de beaucoup de ces gens-là. Mais il reste le politique aussi. Et je voudrais résumer en deux éléments. Ils ont quand même une idéologie fondamentale qui poursuivent. Et d'une façon systématique, je prends deux cas. Vincent Peillon, qui a décidé que dans les écoles, il fallait retirer les enfants de l'influence familiale.
Des idéologues, ouais.
C'est des idéologues.
Des idéologues.
Et de l'autre côté, Madame Belkacem, femme, féministe, comme toutes ces femmes, pensant que, effectivement, pour que la femme soit l'égale de l'homme, il faut en faire un homme bis ou l'homme en faire une femme bis, j'en sais rien. Et d'où l'abécédaire qui veut casser les stéréotypes en disant mais non, mais la volonté, c'est que les enfants puissent choisir les métiers qu'ils veulent, les jeux qu'ils veulent. Comme si c'était pas déjà le cas. Mais voilà. Et ça, c'est très important parce que c'est ces gens-là qu'il faut retirer le pouvoir.
C'est les dangereux.
Ils sont idéologues. Ils n'ont pas le sens de la vraie liberté.
Robespierre.
Oui. Voilà, nous sommes revenus à un temps de...
Pol Pot, voilà. Robespierre...
Donc il faut chasser ces gens-là du pouvoir. Alors il y aura les européennes, et puis après, il y aura les législatives et les présidentielles, et il faut balayer les gens...
Moi, j'ai toujours considéré pour ma part, et j'en prends à témoin Jean-Claude, qui me connaît depuis de nombreuses années, j'ai toujours conditionné mes votes sur ce problème principal. Alors, écoutons encore les auditeurs, parce que nous approchons, et je souhaite que les auditeurs s'expriment.
Un auditeur, je prends l'émission en cours de route. Si ce n'est pas déjà fait, pourriez-vous même brièvement relater le sacrifice de Brigitte Bourges qui fait sa grève de la faim pour la France.
Bravo à Béatrice Bourges qui est la présidente du Printemps français et qui effectivement a entrepris une grève de la faim depuis une semaine. Une grève de la faim.
Oui.
Et autre intervention.
Alors, un auditeur, pourquoi ne parle-t-on jamais de l'enseignement de l'Église au sujet de la contraception ? A-t-on si honte de nos racines judéo-chrétiennes ?
Non, mais enfin, on n'est pas les représentants de l'Église ici pour se permettre de dire ce que l'Église dit sur ce sujet. Je dirais ce que Myriam en pense, pas ce que l'Église en dit.
Mais par contre, nous sommes évidemment à l'écoute et il est certain que ceux de nos auditeurs et ceux de nos auditrices, et je pense que Winfried sera d'accord, qui ont la chance d'avoir la foi, c'est un élément extrêmement important de leur jugement. Winfried Wermeling. Oui.
On parle peut-être moins de l'Église aujourd'hui, mais du bon Dieu quand même. Je pense dans tous ces mots, lui, le Créateur, il a mis des petits boomerangs dans tous ces mots. Vous savez, ça saute à la figure, à la longueur. Je viens de lire ce matin que les deux premiers enfants qui ont été éduqués totalement suivant la théorie du gender, en laissant le choix aux gosses de se décider de garçon en fille, donc c'était deux garçons, une a tourné en fille, ils ont coupé les choses, etc. etc. Et à 20 ans, le premier s'est suicidé et à 22 ans, le deuxième. C'est ça le boomerang.
Voilà, et alors, évidemment,
dans notre domaine à nous, SOS Maman, j'ai lu une étude américaine où ils ont suivi 500 femmes qui ont avorté sur 25 ans. Et il s'est avéré que la courbe de suicide de ces femmes était le plus élevé après 8-9 ans, après la non-naissance, après l'avortement. Chaque fois qu'elle voyait un enfant de 5 ans, elle dit ça pourrait être, etc. Et à 8 ans, ça devenait un tel ballast dans la tête, un tel tourment qu'elle se suicide le plus après 8 ans. Oui. Ça donne quand même à réfléchir. Ou alors les grands maux des peuples, malheureusement en Allemagne, on en a vécu un assez récemment, mais ça arrive à tous les peuples, soit dit. Alors, après la guerre, qu'est-ce que Adenauer a fait ? Il a institué un ministère de la famille. Aujourd'hui, il y en a partout, des ministères de la famille. Bon. Et il voulait justement remettre des fondements à l'Allemagne en partant de la vie, de la famille, des concepts naturels, de la loi naturelle.
Voilà, chers amis auditeurs, je vais demander à Jean-Claude Martinez en 2 minutes de conclure cette émission, même 3 minutes, évidemment, compte tenu de la proximité de ce jugement relatif à Vincent Lambert, et puis pour évoquer une perspective quand même d'espérance.
Bien sûr.
L'espérance, parce que la vie finit toujours par triompher. Tout à l'heure, il y avait une question qui évoquait le fait que ce n'était pas au rôle des parlementaires d'intervenir. Nous sommes sur le fond tout à fait d'accord. C'est parce que la loi est dans la situation actuelle que nous avons été nous-mêmes obligés d'apporter notre contribution législative pour essayer de revenir sur des errements. Mais à l'origine, nous sommes dans un contexte de loi naturelle. Et la loi naturelle ne devrait pas souffrir l'intervention de l'homme. C'est le bon sens, tout simplement, qui devrait guider chaque fois qu'il s'agit de la vie et de la mort des êtres. C'est évidemment la loi naturelle qui doit s'appliquer. Jean-Claude Martinez, la conclusion.
Bah écoutez, d'abord, la conclusion, c'est d'abord merci à Michel. Hein, parce que, voilà, des espaces de liberté, comme je dis, il y a Radio Courtoisie. Voilà, ça, c'est un point clé. Deuxièmement, de toutes les forces de l'esprit, hein, de tout ce qu'on peut porter les uns et les autres. Bon, ce petit, on doit le sauver. Vincent Lambert, ça. Pour moi, c'est terrifiant, cette histoire Lambert. Mais, je voudrais que les gens repensent et jettent un regard en arrière. Il y a 20 ou 30 ans, on avait une douleur fulgurante à la poitrine, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait du cholestérol, ça s'était bouché, on était foutus. On était foutus, ça se bouchait. Bon. Aujourd'hui, c'est banal. On met un stent, ça se dilate, ou on fait comme Bruno Kollnisch, un pontage coronarien, et voilà. Bon. Il y a 20 ans, on avait une ulcère à l'estomac, on enlevait l'estomac, gastrectomie, on enlevait l'estomac, et puis on mangeait des purées toute la vie. Aujourd'hui, on prend des antibiotiques parce qu'on sait que ce sont des bactéries, et on n'enlève plus l'estomac. Voilà. Et on vient de découvrir les uns et les autres le premier cœur miniaturisé qui est fait. Bon, il y a quelques années, on avait un cancer du cerveau, à supposer qu'il n'est pas un cancer, disons, une tumeur du cerveau. Bon, une opération, c'était de la haute voltige. Bon, aujourd'hui, c'est banal. Je voudrais que les auditeurs, c'est au-delà de l'espérance du Fils de l'homme, etc., mais je voudrais que les auditeurs comprennent. Bon. Dans quelques années, je ne peux pas le dire, mais je suis un lecteur, moi, de science, de nature, etc. Bon, je me tiens à l'actualité. Dans quelques années, et je finis par où j'ai commencé, dans quelques années, on le fait déjà in vitro, la régénération des neurones. Parce que pendant des siècles, on a pensé qu'on avait un stock de neurones limité. Et aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas un stock de neurones. Dans quelques années, la régénération neuronale, c'est-à-dire que des neurones qui repoussent, se fera. Et la microvascularisation, aujourd'hui, comme dans les champs de guerre, champs de bataille Napoléon, on ampute toujours. Quelqu'un qui a eu du diabète, on le découpe en rondelles, puis la main, le pied, etc. Dans quelques années, les tétraplégies, je voudrais que les gens comprennent ça, même s'ils croient que je suis allumé, ça remarchera. La maman de Vincent Humbert risque de voir des tétraplégies remarcher. Qu'est-ce que va être la vie de la maman de Vincent Humbert? On lui avait bourré la tête quand elle va voir d'autres remarcher. Quoi. Lambert, il a 37 ans. À 37 ans, on a la vie devant soi, si j'ose dire. Voilà, c'est ça l'espérance. Les progrès sont fulgurants. Les progrès sur le continent cérébral sont fulgurants. Et ce qui est aujourd'hui sans issue va avoir une issue heureuse. C'est quand même trop con, mais vraiment trop con, de tuer un gosse qui va remarcher dans quelques années. Merde.
Merci, merci Jean-Claude Martinez, merci Winfried Wermeling, merci Myriam Beckroot. Votre livre, Jean-Claude Martinez, Euthanasie, stade suprême du capitalisme, édition Via Romana. Le thème de cette émission, c'était le respect de la vie, fondement de la société occidentale. Et pour terminer cette émission, comme chacune de mes émissions, vous allez entendre Carmina Burana de Karl Orff, la musique qui hier a entraîné les manifestations, la manif pour tous, pour sauver, pour contrer le pseudo mariage pour tous. Merci.
Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.